Voilà, comme ça. Oui, ça va,
c'est
bien. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded,
sir. Che fa, aggredisci?
Ma stato fatto, che fa?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Bonjour à toutes et à tous les cinéphiles du vendredi, bonjour et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche avec passion, enthousiasme, amour et esprit, saint d'esprit. Je voulais. À l'affiche aujourd'hui, du grave et du léger, mais où est le plus profond? On se le demande.
Oui.
Avec... Olivier qui se le demande donc. Bonjour Olivier.
Voilà, je n'arrête pas de me demander où est le profond et où le superficiel.
Et René, salut René.
Bonjour à tous.
Bonjour Cathy.
Bonjour Sophie, bonjour à tous et toutes.
Salut Antoine.
Bonjour.
Et bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors on va commencer tout de suite parce que le programme est chargé. On a pas moins de 6 films. Elle, Compostelle, Orwell, Rue Malaga, Alter Ego, Ce qu'il reste de nous. On commence tout de suite avec un petit peu de subversion.
El amor surge de improviso, bruscamente, cuando un hombre y una mujer se encuentran y comprenden que ya no podrán separarse. Un hombre pasa al lado de mil mujeres y de pronto encuentra una que su instinto le dice que es la única. En realidad, en esa mujer cristalizan sus sueños, sus ilusiones, su brillo.
Elle, donc de Luis Buñuel, qui ressort, enfin en tout cas qui est projeté dans le cadre des Escales Patrimoine au navire. Et oui, c'est vrai, oui. Oui, oui, René.
Ouais. Oui, oui.
Et
oui.
Et Cathy, donc tu as présenté hier le film au navire pour Escale Patrimoine. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Puisqu'il sera bien sûr reprojeté lundi à 15h et mardi à 20h45.
Oui, c'est bien, il y a les trois horaires, c'est super ça.
Ouais, exactement. Donc c'est un film que nous avons programmé dans le cadre d'Escale Patrimoine, tu l'as dit, partagé entre le navire et la maison de l'image. Et cette année, nous avions choisi de travailler sur le sentiment amoureux sous toutes ses formes. Là, on va vers un film où on va parler plutôt d'emprise et de jalousie. Donc pour recontextualiser, le film est sorti en 1954 en France. C'est la période mexicaine de Buñuel, puisqu'il a quitté l'Espagne suite à la guerre civile en Espagne. Et il a tourné plusieurs films là-bas, dont ce film que moi je suis ravie qu'on puisse voir au cinéma, parce que c'est pas forcément un film très connu ou qu'on a beaucoup vu de Buñuel. On en a vu beaucoup d'autres et évidemment dans ce film on va retrouver ces thèmes de prédilection, donc je l'ai dit, la jalousie, la religion et la bourgeoisie. Voilà, tout ça c'est mélangé, donc on retrouvait ces thèmes dans des films plus connus, par exemple, que sont Le charme discret de la bourgeoisie, que sont L'ange exterminateur, que sont Journal d'une femme de chambre, Belle de jour, effectivement, où on est dans des personnages bien sous tout rapport, évidemment, aux yeux de la société, ils sont parfaits, mais quand on ferme la porte et qu'on regarde un peu plus à l'intérieur ce qui se passe dans la maison, c'est une autre histoire. Donc ça commence comme on va dire un film romantique, belle histoire d'amour. Le personnage principal qui est un homme donc riche, plutôt bien sur lui, charmant, va rencontrer une femme dans une église lors d'une messe. Une magnifique, elle est très 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 belle et il va tomber amoureux d'elle. Et elle est déjà engagée avec quelqu'un, mais il va tout mettre en œuvre pour pouvoir la séduire et qu'elle devienne sa femme. Et à partir du moment où elle devient sa femme, on tombe dans une violence excessive, une jalousie. Et donc le film va parler de ça, de cette emprise-là que cet homme va avoir sur elle. Et c'est construit comme un, on va dire, comme un thriller quand même. Hein. D'ailleurs, c'est un film qui a beaucoup inspiré Hitchcock. Oui, il y a une scène vers la fin, enfin la scène du clocher où on a Vertigo qui revient, mais Vertigo, ça sort, c'est en 59, donc quelques années plus tard. Donc le film a beaucoup inspiré ou beaucoup parlé à Hitchcock. Et voilà, et c'est un film qui est intéressant, plus qu'intéressant d'aller voir pour Buñuel, pour l'interprétation, pour cette mise en scène. C'est du noir et blanc, bien sûr. Et puis ça montre effectivement, parce qu'on est en 53, mais ça dénonce déjà des violences conjugales, les violences faites aux femmes. Enfin, ça dénonce déjà tout ça. Et bah oui, ce mécanisme d'emprise et d'une modernité saisissante.
À voir, Elle, donc traduit en français, enfin traduit, renommée en français, Tourment, film de Louise Buñuel, donc, qui passe dans le cadre de Escale Patrimoine, encore lundi à 15h et mardi à 20h45.
Et vous pourrez vous amuser peut-être à trouver Buñuel qui fait un caméo dans le film à un moment, c'est un petit jeu de trouver le cinéaste.
Allez, on reste en Espagne avec un autre son de cloche.
Et avant de vous quitter et de vous souhaiter bon vent pour ce pèlerinage, je crois comprendre que certains d'entre vous viennent de contrées lointaines.
Brest.
Mulhouse.
Oslo.
Fleury-Mérogis.
Moi aussi.
Les gamins, là, on aide. C'est tout sauf des enfants de cœur.
Je suis délinquant, condamné plusieurs fois.
Ça fait 15 ans que je leur donne une seconde chance. Alors je me dis qu'accompagner un jeune tout seul... Ça, je saurais faire.
Non, tu reviens immédiatement.
On l'a pas
pris pendant la
formation. Mais t'essayes de me prouver quoi, ta canette, là, vas-y.
Compostelle de Yann Samuel avec Alexandre Alamy qu'on a entendu et Julien Lebert notamment. Alors le film dit inspiré de faits réels.
Oui, une association s'occupe de réinsertion de délinquants en faisant le chemin de Compostelle. Aller simple pour Saint-Jacques. Chant de l'étoile et non pas chant d'étoile, comme il est dit dans le film. Donc c'est Alexandre Alamy qui s'embarque avec son délinquant là sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà, donc le thème est intéressant. On se dit d'ailleurs en disant ça que puisque c'est inspiré de faits réels, pourquoi ne pas avoir traité les faits réels? Pourquoi ne pas avoir fait un documentaire intelligent sur cet assaut, sur ces personnes qui retrouvent une vie un peu plus tranquille. 60% des jeunes qui participent à cette opération de réintégration par le chemin de Saint-Lac, 60% sont non récidivistes. Donc c'est quand même un chiffre intéressant quand on pense que c'est 90% qui récidivent dans les deux ans quand ils sortent de tôle. Bon, donc voilà. Alors le film, quant à lui, est un long fleuve de clichés. D'une certaine manière.
Un chapelet de clichés.
Un chapelet de clichés, voilà, j'ai amené mon chapelet, donc pour que chacun puisse se rendre compte de ce que c'est long hein, quand même. Alors, oui, effectivement, j'ai choisi, plutôt que de développer en long, large et à travers, j'ai choisi de prendre un exemple. Il y a une image que tout le monde a en tête, qui est l'image, c'est aussi vieux que les galets aménagés ou les chasseurs-cueilleurs, si vous voulez, c'est jouer avec l'eau. Vous prenez une pièce d'eau, n'importe quelle taille, ça va du lavabo à l'océan, hein, ouais. Puis vous prenez une, deux ou plusieurs personnes autour de cette pièce d'eau et ils vont jouer. Alors on a tous en tête nos parents qui nous disent « arrête de jouer avec l'eau, tu vas te mouiller ». Donc on sait très bien que jouer avec l'eau, c'est à la fois une source de plaisir important et puis en même temps peut-être un petit interdit autour de la jouissance, voilà. Alors ça, on l'a par exemple dans Federico Fellini, La Dolce Vita, Fontaine de Trevi à Rome. Vous voyez, là, on a Louis de Funès dans le lavabo dans Rabbi Jacob. Il joue avec l'eau dans le lavabo comme ça. Il y a une scène comme ça que j'aime beaucoup, c'est Robert Redford et Meryl Streep dans Out of Africa quand il lui fait un shampoing. C'est magnifique. On a une magnifique scène de jeu avec l'eau. Voilà. Alors ici, évidemment, on ne pouvait pas échapper à la scène avec l'eau. Le délinquant et la prof, virée, qui jouent dans l'eau, dans l'océan, dans la rivière. Alors non seulement c'est un cliché,
mais il est répété, je crois, 4 ou 5 fois dans le film quand même. Alors, vous voyez le type de lassitude que ça peut donner. Et alors, vous prenez tous les genres d'images et tous les genres de scènes, l'altercation, les retrouvailles, enfin, vous voyez, vous prenez toutes ces scènes-là, elles sont rejouées plusieurs fois, comme dans un chapelet, quoi. Hein. Elles sont rejouées plusieurs fois dans le film, jusqu'à épuisement du stock. Alors, l'épuisement du stock, on l'atteint, effectivement, et... Autant, je pensais à un terme de Cathy la dernière fois, les films anodins. Alors, anodin, au départ, c'est qu'il calme la douleur. Hein, et puis après, c'est sans importance. Alors, c'est un film sans importance et qui, dans une certaine mesure, quand même, il faut le dire, peut calmer la douleur, puisque, encore une fois... Alors, souvent, les films, quand on sort d'un film anodin, comme ça, on se dit, mais où est-ce qu'ils ont trouvé tout cet argent pour faire un truc pareil, hein? Alors, là, c'est pas tellement la question que je me suis posée, c'est plutôt la question comment... avec autant de moyens, parce qu'on a là un réalisateur qui sait filmer, qui sait photographier, qui sait mettre en scène, on a des acteurs tout à fait estimables. Alexandra Lamy, je l'attends un jour dans un vrai rôle, un grand rôle. Je pense qu'elle mériterait un grand rôle. On l'avait vu dans La Chambre des Merveilles, déjà, moi j'avais trouvé qu'elle était intéressante. Là, malgré le côté extrêmement confit quoi, des scènes qu'elle a à jouer... Elle s'en sort, elle n'est jamais ridicule. Il faut le faire, ne pas être ridicule dans la multiplication de clichés comme ça. Et donc la question que je me pose, c'est pourquoi, avec autant de moyens, mais je ne parle pas de moyens financiers, autant de moyens grammaticaux, style de ressources, de diverses, etc., on arrive à faire quelque chose d'aussi précisément anodin, quoi.
Qui tombe à l'eau, donc pour reprendre
oui, voilà.
Voilà, des ressources, mais... Ah,
j'ai hâte que tu vois le film pour le plaisir avec Alexandra Lamy.
Ah oui.
Alors, on en reparlera.
Oui, d'accord.
Qui va sortir, là?
Oui, ça sort bientôt.
Mais d'accord. Alors, c'est le grand rôle ou c'est...
Ah non, bah justement, ah, je pense que malheureusement, elle persiste et signe. Mais c'est dommage.
C'est à se demander si elle ne se coupe pas, à force de prendre des rôles comme ça, moyen ou moyen moins, si elle se coupe pas d'une proposition qui pourrait être vraiment intéressante et qu'elle mériterait, quoi, je crois.
Alexandra Lamy, qui est dans Compostelle, qui est en ce moment sur les écrans de Rue 11 et d'Aubenas. La semaine prochaine, en plus, sera au Foyer à Rosières et à partir du 16 avril, au Vence. Alors, on va là chroniquer un film dont on a déjà parlé, Orwell 2+2=5. On va peut-être d'abord se remettre dans l'oreille quelques secondes de la bande-annonce. Et quelques secondes dans la bande-annonce.
The words democracy, freedom, justice have each of them several different meanings which cannot be reconciled with one another.
Ouais, c'était très court, mais là, je pense qu'on a été déjà dans le feu de l'action qui emmène tout sur son passage. René Orwell 2+2=5 de Raoul Peck. On a entendu la voix de Damian Lewis. C'est Eric Ruff qui fait le job en français dans la version française. Olivier nous avait dit le plus grand mal de ce qu'il pensait de ce film. Et toi?
Hélas, je vais un peu dans le même sens. Ah. Et alors, pour commencer, je partirai du résumé, de ce résumé qu'on trouve un peu de partout, Allociné et ailleurs. On nous dit, Orwell, 2+2=5, plonge dans les derniers mois de la vie d'Orwell et dans son œuvre visionnaire, etc. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Le film ne se contente pas de plonger dans les dernières années de la vie d'Orwell. Il s'efforce non seulement de nous rappeler toute sa biographie depuis sa naissance jusqu'à sa mort, mais en plus toute la thématique de son œuvre et tous les échos que son œuvre a eu, continue d'avoir. Et comme l'a souligné Olivier la semaine dernière, c'est là que le bât blesse. Je veux dire que... Que ceux qui ont fait ce film aient eu envie de nous montrer tous les aspects de la vie et de l'œuvre d'Orwell, peut-être, mais alors il aurait fallu le scénariser, il aurait fallu l'organiser, il aurait fallu avoir un propos autour de cet ensemble. Là, on n'a pas cette impression. Il y a un sentiment d'un film un peu ectoplasmique. Ça part un peu dans tous les sens et c'est regrettable, voilà. D'abord, Le totalitarisme. Parler aujourd'hui du totalitarisme, on risque pas grand-chose. Mais à l'époque, quelqu'un comme Orwell, qui revendiquait son adhésion au socialisme et qui ne l'a jamais rejeté, il prenait un risque. Et de fait, il y a beaucoup de gens qui, au début... Bon, le film a eu du succès parce qu'il est... Je parle de son film 1984. Il a eu du succès parce qu'il est tellement remarquable.
Son livre, mais,
son livre, pardon. Mais il a tellement été mis en scène que... Voilà. Mais bon, il a eu tellement de succès que... voilà, ça affectait les critiques, mais bon, il y avait ça, quoi. Et là, on touche à un aspect fondamental de l'attitude d'Orwell et de sa méthode et de son courage. Orwell, c'est un type qui a construit son œuvre à partir du terrain, sa dénonciation du colonialisme à partir de son expérience en Birmanie où il était dans la police, sa dénonciation de la misère à partir de son expérience de plusieurs mois auprès des clochards à Paris et à Londres, qui a donné lieu à ce livre absolument extraordinaire qui s'appelle « Dans la dèche » à Paris et à Londres. Alors, on ne se rend pas compte aujourd'hui de ce que ça pouvait être que de passer des mois, encore que même aujourd'hui, mais à l'époque, c'était bien pire. C'était dans les années 30, passer des semaines avec des clochards à Paris et à Londres, sans un sou. Il est arrivé de faire la plonge pour pouvoir manger. Il dormait dans des trucs pas possibles. Il a fait ça. Voilà. Et bien, en ce qui concerne la dénonciation du totalitarisme, il est parti de sa participation à la guerre d'Espagne, où il me semble qu'il a été blessé, où il a été condamné à mort par les fascistes, et il a été là le témoin des magouilles de Staline pour faire échouer la lutte des républicains contre Franco. Il a eu une expérience de première main du totalitarisme. Et ensuite, il a travaillé à la BBC. Alors évidemment, la BBC, c'était pas un système totalitaire, mais il y avait quand même une dimension bureaucratique qui n'a pas supporté. Il y a une phrase dans le film, je regrette de ne pas l'avoir mémorisée, mais en substance, il dit au bout d'un moment, je démissionne de la BBC, en substance, parce que je sens que je m'y embourgeoise. C'est merveilleux d'entendre dire ça à quelqu'un. Et voilà, donc pour moi, c'est ce qu'il y a d'essentiel, aujourd'hui en particulier, où on vit l'ère du soupçon, dans ce monde de fake news, de trumpisation à outrance. On a envie de vomir tous les jours quand on entend ce qu'on entend, tellement ce n'est que mensonge. Et là, on a quelqu'un qui, au risque de sa santé, qui va y laisser sa peau, parce que s'il est mort à 45 ou 47 ans, c'est pas pour rien. Je veux dire, allez passer 6 mois avec des clochards, vous verrez si vous avez une tendance à la tuberculose, vous allez y rester. Il y est resté, de fait. C'est pas quelqu'un qui témoigne depuis le confort ouaté du café de Flore. C'est pas quelqu'un qui a mis son fauteuil dans le sens de l'histoire. Lui, il a mis ses tripes dans le sens de l'histoire. Voilà. C'est ça qui est intéressant chez lui. Toutes ces injustices qu'il dénonce... dans un témoignage précieux. C'est de cela qu'il faut nous parler. On n'a pas besoin de tout ce que vous devez savoir sur Orwell. On a besoin de pouvoir dépasser l'émotion, parce qu'effectivement, ce film parie tout sur l'émotion. Il faut dépasser l'émotion pour penser à partir d'un témoignage irremplaçable. Au lieu de nous offrir un kaléidoscope où on nous dit, on nous montre tout ce qu'on peut nous montrer sur sa vie, son œuvre et sa pérennité. Voilà, je suis un peu en colère contre ce film qui, à ma vie, gâche tout.
Oui, oui, oui. Alors, tu veux réagir ? Il y a 5 minutes et demie de lycéenne, d'avis.
Voilà. Ah d'accord, non, je veux juste dire que moi, j'ai envie de trouver des fonds pour que René
moi
fasse
aussi.
Le film.
Mais oui,
voilà, en l'écoutant.
Ça y est,
voilà.
Il a son scénario.
Exactement.
Il a choisi son angle de vue, ouais. Il l'a scénarisé.
Moi, je veux voir ce film par René.
Et j'aimerais bien que vous disiez après un petit mot, parce qu'on va entendre Léa et Léna qui sont lycéennes au lycée Vincent d'Indy à Aubenas dans quelques instants.
À
on
Privas,
va les non? entendre. À Privas, pardon.
Oui, voilà.
Est-ce qu'on a le son? Allez, on les écoute toutes les deux. Donc, elles ont vu 2 plus 2 égale 5. On est avec Léa et Léna, lycéennes au Vincent d'Indy à Privas. Vous avez vu le film 2 plus 2 égale 5? Alors, je suis tout ouïe pour connaître votre avis sur ce film.
Du coup, on est allé voir ce film mardi. Et c'était un film que j'ai trouvé très intéressant personnellement, au point de vue déjà de son lien avec George Orwell, qui est un auteur qu'on étudie souvent au lycée, mais aussi au point de vue de l'actualité, puisque c'est un film documentaire qui recroise beaucoup l'actualité. Et je trouvais qu'il était très enrichissant, puisqu'on étudie en ce moment aussi les régimes totalitaires, donc c'était parfaitement en phase avec nos études. Mmh. Et moi, j'ai trouvé ce film vraiment très intéressant parce que j'ai trouvé qu'il était très engagé, puisque il essaie vraiment de dénoncer la montée du totalitarisme, que ce soit dans le passé, mais aussi en montrant des images plus actuelles que ça poursuivait encore aujourd'hui. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup d'images, notamment d'actualité, que j'avais pas vues, parce que je m'informe bien évidemment des situations dans le monde, mais je vais pas forcément aller regarder les images qui montrent explicitement la violence. Et donc, il y a beaucoup d'images, notamment de Palestine, qui m'ont énormément touchée. Et donc, j'espère que ça va avoir un effet sur les spectateurs qui vont le regarder, et j'espère que ça pourrait faire un peu changer les mentalités. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce documentaire.
Et tu parles d'images qui t'ont touché, mais est-ce que ça t'a fait penser ? C'est-à-dire, est-ce que ça a laissé la place pour la réflexion ? J'ai l'impression qu'il y a énormément d'images, de documentaires différents, de reportages différents. Est-ce que c'est facile à digérer pour penser ? Ou ben voilà, qu'est-ce que ça t'a fait au-delà de t'avoir touché ?
Il y a vraiment beaucoup d'images qui m'ont choquée, qui m'ont presque un peu tiré les larmes, qu'il ait vraiment montré la violence de face et très clairement et très explicitement. Et ouais, ça m'a un peu... Même si on est tous au courant de ce qui se passe, je pense que voir vraiment les images, ça nous permet aussi de prendre conscience que c'est réel et que ça nous concerne tous. Et donc j'espère vraiment que ça va avoir un impact sur les spectateurs et sur toutes les personnes qui vont aller visionner le documentaire. Mmh. Et puis moi, je trouvais que même si c'est un montage et que peut-être pour certaines personnes, c'était pas très clair, nous, on en a parlé entre nous et on pense que, puisqu'il y a beaucoup d'informations, il faudrait peut-être le revoir pour mieux le digérer, justement. Mais en tout cas, c'est vraiment un film qui permet de penser, je trouve, donner beaucoup, beaucoup de pistes. Vraiment, c'est pas trop, mais ça fait beaucoup. Et je trouvais ça hyper intéressant qu'il y ait quand même un minimum de structure avec l'histoire de Orwell. Mais ça donnait vraiment à réfléchir et ça faisait vraiment écho à... moi, j'étais pas surprise parce que je connaissais à peu près tout ce à quoi il faisait référence par ce qu'on étudiait en géopolitique. Mais ça, en faisant écho, c'était d'autant plus intéressant, je pense. Ça me semblait être un documentaire qui parlait de la vérité et qui traitait de beaucoup de problèmes très réels, notamment sur la question des médias et de l'indépendance des médias. Et cette question de la vérité, elle est soulevée déjà dès le titre. Et je trouvais ça super pertinent, en fait. Hmm.
Léna, tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, moi, j'ai aussi beaucoup aimé que le documentaire soit séparé en faisant référence à chaque fois aux devises qu'il y a dans 1984. Parce que je trouvais que, du coup, ça montrait encore plus que même si George Orwell il a écrit ce roman il y a déjà presque 40-50 ans, en fait, ces mots, ils sont encore actuels. Et du coup, ça montre que le totalitarisme, les violences, ça peut encore arriver aujourd'hui et que du coup, on devrait se sentir concerné par les mots des écrivains qui viennent du passé, mais finalement, qui ont encore une résonance très forte aujourd'hui.
Super. Merci beaucoup à toutes les deux, sauf si vous voulez ajouter quelque chose.
Je pense qu'on pourrait ajouter que c'est un film... qui, comme disait Léna, qui devrait avoir un impact, qui devrait parler aux gens. J'espère que ça va parler aussi à ma génération au point de vue de la liberté, parce que c'est une génération qui a, je trouve, un grand courage et qui arrive à soulever des questions de manque de parole. On n'a pas beaucoup de droit à la parole, c'est ce que je veux dire. Et d'un point de vue aussi, par exemple, des livres qui ont été censurés aux États-Unis. Je pense qu'on est vraiment dans une époque qui met en danger notre liberté. Et c'est avec des documentaires comme ça qu'on arrivera, je pense, à en prendre conscience et à mieux combattre des régimes qui sont bien réels. Ça permet vraiment de comprendre que c'est pas une fable, c'est pas une question de subjectivité ou de point de vue, c'est la vérité, c'est très réel, très concret.
Vous avez l'impression de ne pas avoir de liberté de parole, c'est ça ?
Je pense qu'on est une génération qui est beaucoup catégorisée, généralisée. Alors, c'est le cas, je pense, pour toutes les jeunesses depuis très longtemps. Mais encore plus aujourd'hui, on laisse beaucoup place aux sentiments et aux préjugés pour catégoriser les gens et finalement ne pas leur donner droit à la parole. Par exemple, on prend des décisions pour l'éducation ou concernant les réseaux sociaux sans jamais consulter les principaux intéressés. Mais c'est pas que le cas pour la jeunesse, c'est le cas pour beaucoup de minorités en droit. Et ce film, il interroge aussi ça, en montrant les minorités raciales, ethniques. Je trouvais ça super intéressant au point de vue de la liberté.
Bah merci beaucoup, on va finir là-dessus. Merci à toutes les deux, et même à la classe, et merci à Florence. Merci à toi.
Merci à vous. Au revoir.
Voilà, alors je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire après. Il nous reste 10 minutes pour deux, trois films.
Alors, moi, je constate que ces deux ados sont structurés. Leur façon de s'exprimer montre qu'elles sont structurées, mais que ces structures, elles ne les ont pas acquises en voyant le film, mais plutôt en allant au lycée.
Mmh. Ouais, oui, elle parle des cours de géopolitique.
Ouais. Curieusement, dans leur adhésion au film, il y a une espèce de critique en creux. Ouais. Elle insiste beaucoup sur les sentiments,
sur
justement.
Sur l'émotion, voilà, sur le régime de l'émotion.
Il y en a un moment, il y en a trop, il y a trop de choses. Effectivement, elles ont bien compris. Oui. Dans quelques années, si elles le revoient, je pense qu'elles auront une approche différente. Il se passe quelque chose de bien chez elles.
Oui, complètement. Oui.
Et oui. Comment filmer, voilà, comment par l'image ne pas saturer la pensée, laisser de la place à la pensée.
Mais c'est bien quelque part cette forme de naïveté, j'ai envie de dire. C'est que le fond, elles l'ont compris et elles le défendent. Après, la forme, elles l'ont mise de côté. Et nous, on s'y attache beaucoup plus, certainement.
Oui, bien sûr, on est plus formaliste.
Voilà. Orwell 2+2=5, faites-vous votre avis, peut-être, allez voir. Donc, il est toujours au navire. On enchaîne avec Rue Malaga.
Si quieres sacarme, tendrás que hacerlo por la fuerza. Cosas increíbles. Sus labios. Su boca.
Sous Boca, rue Malaga de Mariam Touzani, à qui on doit notamment le bleu du caftan, qui nous avait beaucoup touché, justement. Donc avec Carmen Maura, qu'on aura reconnu. Encore un film espagnol.
Oui, on est en mode hispanisant sur cette émission. Effectivement, c'est son troisième long métrage à la réalisatrice, qui est une réalisatrice marocaine, qui est née à Tanger. Donc en fait, elle transpose la vie de son personnage, Maria Angeles, une femme d'un certain âge, voire une femme âgée, qui vit depuis très longtemps à Tanger et qui voit sa fille débarquer un jour, donc sa fille qui est en pleine séparation, besoin d'argent, qui lui annonce « écoute, l'appartement, papa l'a mis à mon nom », donc le mari est décédé depuis longtemps, le père, « je vais le vendre parce que j'en ai besoin ». Ah, donc en fait, c'est un film qui commence comme une comédie dramatique, on va dire pas un drame, mais plutôt une comédie dramatique.
Ce qui s'entend dans la bande-annonce. C'est pour ça que je n'ai pas choisi le début de la bande-annonce, mais plutôt
Ce côté un peu plus léger, voilà. Et qui va se poursuivre plutôt, on va dire, sur une comédie romantique. Alors on le dit tout de suite, c'est un feel-good movie, enfin, on va le déterminer comme ça. Et c'est ce qui fait du bien aussi parmi tous les films que l'on peut voir avec des sujets plus ou moins faciles. Et il faut du divertissement aussi au cinéma. Mais comme on sait qu'elle fait des films intelligents aussi, qui ont un fond, là, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que il n'est pas téléphoné. On ne sait pas vraiment où elle nous amène, parce que justement, ce point de départ avec cette fille qui débarque et qui dit on va vendre la maison, tu vas te retrouver en EHPAD, en gros. Cette femme est marquée par ce que va lui dire sa fille. On sent que finalement elle accepte de faire c'est-à-dire donc tout l'appartement est vidé, il y a pas de promesse de vente, mais bon bref, elle se retrouve en EHPAD dans sa petite chambrette, et puis là il y a un déclic et elle reprend sa vie en main. Et c'est ça que j'ai aimé particulièrement dans ce film, parce que ça aborde donc la vieillesse sous un angle différent, c'est-à-dire qu'on peut avoir un certain âge, je ne sais pas exactement quel âge a le personnage, mais sans doute entre 75 et 80 ans, et elle reprend sa vie, et elle va à nouveau avoir du désir, de l'envie, elle va rencontrer quelqu'un de manière très, très humoristique d'ailleurs, parce que c'est la personne à qui qui a racheté quasiment les meubles, donc elle va aller le voir pour lui re-racheter ses propres meubles. Il y a un regard sur Tanger, il y a un regard sur l'Espagne aussi, moderne, et cette femme qu'on suit avec beaucoup de plaisir. Et puis les petits moments humoristiques aussi, c'est qu'elle va se confesser à une amie d'enfance qui est bonne sœur, et elle lui raconte des trucs un peu salaces, et l'autre, elle ne parle jamais, mais on voit les expressions sur son visage, aussi bien amusée que choquée, parce qu'elle peut lui raconter. Et voilà, c'est vraiment un film qui est à aller voir pour se faire un peu plaisir, et voilà.
Rue Malaga de Mariam Touzani, c'est à voir en ce moment à Aubenas et à Tuaille, il sera le 14. On termine presque. Allez, 10 secondes de bande-annonce.
Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin.
Ouais, mais là, ça va. Non, c'est. Ça va pas être possible, ça.
Ah, tu vois le voisin derrière? C'est dingue, non?
Ah, il ressemble à quelqu'un? Julien Courbet, c'est ça?
Alter ego de Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, qui avait réalisé déjà La personne aux deux personnes en 2008, donc le thème du double doit un peu les chatouiller. On a entendu Laurent Lafitte et Blanche Gardin. Alex a un problème, son nouveau voisin est son sosie parfait avec des cheveux et pas que, un double en mieux qui va, paraît-il, totalement bouleverser son existence.
Voilà, et donc effectivement l'unité du sujet, l'unité de soi, n'est-ce pas, c'est une vraie question philosophique.
Oui.
et c'est pour la raison pour laquelle que le double nous fascine, le thème du double nous fascine, parce que il est soit l'expression d'une division de soi, soit Dr. Jekyll Mr. Hyde, d'une certaine manière, soit c'est une division de soi, soit c'est un doublement de soi, c'est Superman, quoi. Hein, c'est l'employé de bureau modeste qui, en fait, a des super pouvoirs et peut aller sauver la population de New York en s'envolant d'immeuble en immeuble. Voilà, donc le thème du double nous intéresse. Alors évidemment, on attend beaucoup d'un film sur le double, comme on attend beaucoup d'un film sur le voyage dans le temps. Ce sont des thèmes qui sont très très prenants, et en général on est déçu. En général on est déçu parce qu'on voit que le voyage dans le temps est impossible, et parce qu'on voit que nous sommes toujours rattrapés par notre identité. Malheureusement, nous sommes rattrapés par nous-mêmes assez régulièrement, et on peut aller loin sur la planète et être toujours accompagné de soi le matin quand on se réveille. Donc ce film est de ce point de vue-là un peu décevant. Il a choisi de traiter le double sur le mode de la comédie. On peut le traiter sur le mode de la tragédie, hein, de la possession, de la réincarnation, etc. Là, c'est sur le mode de la comédie qui tourne au burlesque. Et une fois de plus, c'est l'occasion pour Laurent Lafitte de se livrer un véritable numéro. Alors, on l'a déjà vu dans le numéro de super clown de la femme la plus riche du monde. Hein,
il a eu un Oscar, d'ailleurs.
Voilà.
Non, César.
César, pardon.
Oui.
Oscar, peut-être pas,
non,
mais...
Non, César, oui. Pardon.
Et... Oui, enfin, toujours est-il qu'il n'aura certainement pas un Oscar non plus pour ce rôle de Alex Axel, c'est le jeu de mots, parce qu'effectivement, alors c'est assez, j'ai été frappé, moi, la salle était assez remplie de spectateurs, et j'ai pas entendu rire une seule fois. La seule fois où j'ai entendu un début de rire, c'était le mien, Et oui, je me suis surpris. Et
ça
me
fait beaucoup rire.
Oui, et ben non, ça m'a pas fait rire. J'ai vécu dans la foulée une espèce de grand moment de solitude au milieu des autres. Et je me suis posé la question de mon identité personnelle, du coup. Voilà.
Tu vois que c'est un film profond.
Oui. Exactement, qui te fait penser.
Et ben voilà. Donc c'est un film très profond, mais il faut creuser soi-même.
Alter Ego, oula, c'est à voir au Navire à Aubenas à Barjac, ce sera le 9 avril. Il nous reste juste une minute simplement. Alors c'est dommage parce que ce film, je pense, mérite plus. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ce qu'il reste de nous, de Cherianne Dabis, je ne sais pas si je prononce bien. Ouais. Voilà, la vie de trois générations d'une famille palestinienne depuis 1948 à nos jours.
Oui, bah c'est ça. C'est très difficile de dire en une minute, donc on en reparlera. Mais effectivement, c'est une chronique familiale avec une histoire dans la grande histoire, puisqu'on démarre en 1948 jusqu'à nos jours avec cette vie et ces souffrances familiales qui vont jusqu'au bout du film. Et c'est un film magnifique.
Voilà, ça déjà cas, tu invites, voilà. Tu conseilles vraiment déjà à le voir. Oui. De toute façon, il sera la semaine prochaine à Aubenas, donc on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Je note que ce soir, il y a À pied d'œuvre à l'USAS à 20h30.
C'est bien. À pied d'œuvre.
À pied d'œuvre de Valérie Donzelli. Et samedi, Elle entend pas la moto, qui sera au Béage grâce à la Maison de l'Image. Voilà, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été là autour du micro. Et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi pour encore du cinéma. Ciao.
Ciao, ciao.
Voilà.